Merci. Alors, je crois que dans les feuilletons, il y a le good cop et le bad cop. Alors moi, je vais jouer le mauvais policier, après avoir entendu le bon policier, puisque je vais vous parler d'une violence des mots qui est réellement une violence, mais qui est une violence qui, du fait de notre histoire, est une violence légitime et légale, c'est-à-dire le blasphème. Et je vais essayer de vous montrer. En essayant, je sais que je suis historien, donc je serai ennuyeux, bien entendu, mais je vais essayer de vous montrer combien l'histoire, néanmoins, nous permet de bien comprendre une partie de ce débat, c'est-à-dire qu'il y a bien sûr des violences des mots absolument condamnables, et notre droit le condamne comme l'injure, par exemple, mais il y a toute autre violence qui peuvent être considérées comme légitimes. Et qui sont, depuis en tout cas en France, la Révolution française, considérées comme des violences qui doivent être acceptées par le législateur. Et le blasphème, vous savez, il y a une histoire très particulière entre la France et le blasphème, puisque la France est la première nation d'Europe et donc probablement du monde, je ne vais pas chercher au-delà, à avoir considéré que le blasphème ne devait pas être un délit. Ça s'est passé au tout début de la Révolution française, en 1789, et ça a été repris dans le premier code pénal français de 1791. On a considéré que le blasphème, qui est pourtant bien une injure à la divinité, relevait de ce qu'on appelait d'un crime imaginaire. Et qu'à ce titre, ce crime imaginaire, eh bien, il ne devait pas être sanctionné. Et moi, quand j'étais jeune, ça remonte maintenant à très longtemps, hein, bien sûr, eh bien, ça me paraissait une telle évidence que jamais j'aurais pu imaginer un jour écrire ce petit livre sur le blasphème et venir, comme aujourd'hui, vous en parler. Parce que dans la cour de récréation que nous avions à l'époque, la question du blasphème, évidemment, ne venait jamais dans la discussion. C'était une évidence. Et puis, il faut bien admettre que depuis un certain nombre d'années, en particulier de manière extrêmement tragique, l'affaire, l'attentat terrible à Charlie Hebdo, eh bien, a remis sur le devant de la scène cette question du blasphème et nous a fait comprendre que, eh bien, il y avait des violences de mots, des violences de caricature, des violences d'expression, pour prendre les choses au sens large, eh bien, qui étaient bien plus choquantes qu'on ne l'imaginait et qui, du coup, soulignaient qu'il y avait un impensé en France bien plus fort qu'on aurait pu l'imaginer sur ces questions. Alors, je ferai très brièvement à la fin, mais je pense que Anastasia reviendra, je ne sais pas, dans cette intervention sur cette question de la blessure, parce qu'au fond, toute la question tourne autour de cette notion. J'essaierai de souligner comment aujourd'hui se trouve posée la question sur un plan juridique, mais je voudrais vraiment prendre quelques instants sur le développement historique, parce que vous verrez que l'histoire nous montre pourquoi nous en sommes arrivés là, et il y a des débats, même très anciens, qui nous permettent de comprendre les enjeux contemporains de cette question. Alors, pour être très 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 rapide sur les prémices, si vous voulez, le délit de blasphème a eu, quand il était encore considéré comme un délit, c'est-à-dire pendant tout l'Ancien Régime, depuis la plus haute antiquité, mais en tout cas pour ce qui nous concerne en France depuis tout l'Ancien Régime, il a eu au moins trois significations différentes, et j'insisterai juste sur des points très précis de chacune de ces significations. Au départ, le blasphème est considéré comme un outrage à la divinité, c'est-à-dire qu'on condamne le blasphème parce qu'on pense que Dieu est vraiment blessé par ces paroles outrageantes, par ces violences des mots qui s'adressent directement à la divinité. Ça va structurer à peu près tout le Moyen-Âge, mais je dirais, c'est une surprise d'ailleurs, y compris de ma part, je pensais que la violence de la répression était considérable. En réalité, l'Église elle a plutôt pour ambition de sauver le blasphémateur, c'est-à-dire qu'elle lui inflige une amende et une pénitence, mais elle ne veut pas, elle n'impose pas une violence physique, une répression très forte. C'est paradoxalement l'organisation laïque, c'est-à-dire la monarchie, qui va au contraire vouloir sanctionner de manière beaucoup plus forte le blasphémateur, parce que le roi, notamment à partir de Saint-Louis, il ne porte pas son nom pour rien, considère que c'est très dangereux d'attirer les foudres du Seigneur sur le royaume, et donc on veut sanctionner le blasphémateur. Saint-Louis voulait d'ailleurs condamner à mort le blasphémateur, et c'est le pape qui lui a dit, bon, tu es très gentil, mais non, il faut au contraire conserver cette idée de pénitence, parce que si on condamne à mort le blasphémateur, ben, évidemment, ça perd tout son sens de la sanction. Alors, ce qui est plus intéressant, c'est quand le blasphème va devenir, à partir des guerres de religion, un crime identitaire. Et là, ça résonne évidemment beaucoup plus avec des actualités que nous avons connues. C'est-à-dire que à partir des guerres de religion, le blasphème se transforme et devient un crime qui caractérise, si vous voulez, l'autre. Le maldire, c'est le mal croire. Et donc, le blasphémateur, c'est celui qui a une religion différentes et une religion que l'on considère comme condamnable et qui, de ce fait, nous agresse de ce fait de sa religion. Et donc, on va avoir en France un lien étroit qui va se nouer entre le blasphème et la répression religieuse. Au départ, comme la France est un pays assez particulier puisqu'il n'est ni, comme les pays du Nord, totalement acquis au protestantisme, ni comme les pays du Sud, totalement acquis, ou restant catholiques, la France s'est posée pendant quelques années la question, et le roi François Ier, qui est célèbre donc à cette époque-là, roi de France, qui a des intérêts à ménager les princes protestants dans sa lutte contre Charles Quint, je vais très vite. Bref, au départ, il n'aurait pas voulu pourchasser particulièrement les blasphémateurs protestants. Et puis, il se trouve qu'il y a une affaire très, très connue, petite affaire aujourd'hui, mais à l'époque très importante. Il y a une affaire de placard, parce que les mots dont on parle, la violence des mots, elle s'exprime surtout, enfin, elle s'exprime aussi dans les écrits, ce n'est pas simplement la violence verbale. Et les protestants ont placardé cette nuit, la nuit des placards, un certain nombre de petits tracts, comme on pourrait dire, sur certains monuments, y compris jusqu'à la chambre du roi. Et c'était des placards qui avaient un caractère blasphémateur, puisqu'ils remettaient en cause la religion catholique. Et cet outrage au roi a été considéré comme quelque chose d'extrêmement violent. Et c'est à partir de là que s'est mis en place toute une répression du blasphème. C'est intéressant à noter, c'est au même moment qu'apparaît l'imprimerie. Et donc, on va avoir le début de la censure lié à ce désir de réprimer des mots qui blessent. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien noter ce point précis. Il y aura toujours, dans l'idée, en France et en particulier, mais dans d'autres pays aussi, cette attention à considérer que, bien sûr, il y a des mots qui blessent, mais ce que l'on leur oppose, c'est la censure. Et la censure est rarement, elle aussi, considérée avec un grand caractère positif. Oui. Alors, ce tournant de l'affaire des placards est très important. Je vais quand même quelques mots ensuite, à nouveau, quand on y reviendra. Mais à partir de la fin du XVIe siècle, du début du XVIIe siècle, on a résolu ces guerres de religion. On les a résolues d'ailleurs dans un contexte qui est assez paradoxal, parce qu'on croit toujours que c'est l'édit de tolérance qui va permettre en France de sortir de ces questions religieuses, de ces questions de conflits religieux. En réalité, c'est assez triste à dire, mais c'est surtout les politiques qui sont nés à partir du traité de Westphalie en 1648, des traités d'unification religieuse. C'est-à-dire, selon le principe qu'on dit souvent en latin, c'est quius regio, eius religio, c'est-à-dire tel prince, telle religion, il faut que le peuple ait la religion du prince. C'est-à-dire, au fond, l'unification autour d'une seule religion. Et ce processus qui a mis fin aux guerres de religion, c'est un processus évidemment aujourd'hui qui serait assez difficile à admettre, va transformer ce qu'on appelle la configuration blasphématoire. Parce qu'à partir du moment où, de toute façon, il y a une unité religieuse, la question du blasphème change complètement de sens. Ce n'est plus un crime identitaire. Et ça va devenir, à partir de cette époque-là, un délit que l'on considère comme un délit, un trouble à l'ordre public. C'est-à-dire qu'au fond, et on le voit dans la plupart des écrits de cette époque, jusqu'à la Révolution française, on poursuit le blasphémateur, non pas parce qu'on pense qu'il a outragé le divin et que le divin va se venger sur nous, ça ce n'est plus du tout l'esprit de cette époque-là, on ne considère plus le blasphémateur comme un ennemi de la religion, puisqu'on est dans une unité religieuse. On considère simplement que le blasphémateur crée un trouble parce qu'il choque. Il crée une sorte il perturbe la croyance de l'autre. Et à partir de là, on considère qu'il est nécessaire de le sanctionner. Et on va continuer à sanctionner le blasphème jusqu'à la Révolution française. Mais à partir de Spinoza, mais surtout chez nous en France, à partir des Lumières et notamment d'un auteur très important qui s'appelle Montesquieu, on va remettre en cause cette sanction du blasphémateur. Montesquieu dit cette chose suivante: « Si les lois des hommes ont à venger un être infini, elles se régleront sur son infinité. » C'est-à-dire que si on commence à se lancer dans la spirale de répression du blasphème, eh bien, on entre dans une logique répressive sans fin, parce que toujours quelqu'un considérera que tel ou tel propos est contraire à la divinité. Et donc, cette considération de Montesquieu est très importante parce qu'elle va conduire les hommes du XVIIIe siècle à considérer qu'en effet, il est finalement assez dangereux de se lancer dans cette question de la répression du blasphème. Et l'élément majeur qui emportera définitivement les Français, et en particulier les législateurs révolutionnaires, c'est la célèbre affaire du Chevalier de la Barre. Célèbre affaire qui est d'ailleurs très unique en réalité quand on examine les cas judiciaires de cette époque-là. C'est-à-dire, je dis en un mot ce que c'est cette affaire du Chevalier de la Barre. Le Chevalier de la Barre était un jeune homme de 19 ans, un peu viveur, pas très sympathique d'ailleurs, et il est accusé, on découvre un matin dans une petite ville du nord de la France qui s'appelle Abbeville, on découvre un matin que le crucifix en bois, le grand crucifix en bois qui orne le pont d'Abbeville, a été lacéré. Et donc ça crée un émoi important dans la ville. On est en 1765 et on accuse ce jeune homme, ce chevalier de la Barre, qui est connu pour être un peu viveur et avoir déjà proférer quelques propos que l'on appelle blasphémateurs, et on le traduit en justice. Et à ce moment-là, pour des raisons, je ne vais pas m'y étendre maintenant, mais des circonstances vraiment sordides, particulières, aussi bien en première instance qu'en appel, le Chevalier de la Barre est condamné à mort, décapité, brûlé, et un des éléments qui va accentuer qui renforcera la conviction des juges de le condamner à mort, c'est qu'on a découvert chez lui le dictionnaire portatif de Voltaire. Donc, on mettra en plus sur le boucher, sur le corps du jeune homme, le dictionnaire portatif de Voltaire pour que on expulse complètement ce crime de blasphème. Évidemment, ça va provoquer une réaction en chaîne en Europe, en particulier à l'initiative de Voltaire, ce qu'on dit peu souvent parce que c'est un détail juridique, mais en réalité parce que Voltaire a eu peur. Étant donné qu'à l'époque, le délit de blasphème, quand on peut montrer qu'il est motivé par notamment un écrit, on peut poursuivre l'auteur de cet écrit. Et donc, en l'espèce, on cherchait à condamner Voltaire, le Parlement de Paris en particulier, pour justement cette publication du dictionnaire portatif. Donc Voltaire, à ce moment-là, mobilise toute l'Europe éclairée, et cet acte est considéré comme barbare, il est condamné, et c'est le procès de trop, ce procès qui conduira la Révolution française, dès le mois d'août 1789, à prendre de manière quasiment unanime, hein, il faut le reconnaître, l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme, qui considère qu'une des libertés les plus précieuses de l'homme, c'est la liberté de communication, la liberté d'expression. Et deux ans plus tard, dans le code pénal, le premier code pénal qui sera adopté par la Révolution française, eh bien, au titre même de cette liberté d'expression, le rapporteur, le Pelletier de Serfageot, considérera qu'il faut éliminer tous ces crimes qui n'ont rien à voir avec il n'y a pas de victime directe, et c'est tout ce qu'il va appeler les crimes imaginaires, l'hérésie, la sorcellerie, le blasphème et un certain nombre d'autres crimes. Donc, on peut penser qu'à partir de cette époque, eh bien, nous en ayons définitivement terminé de cette question du blasphème et que désormais, il est libre de blasphémer. En réalité, c'est beaucoup plus compliqué parce que si pendant toute la Révolution et l'Empire, il y a eu en effet une abolition définitive de cette question du blasphème, il va, à partir de la Restauration, se réintroduire, mais par la petite porte, si j'ose dire, c'est-à-dire par le biais d'une infraction qui ne dira pas son nom, c'est-à-dire qu'à partir de la Révolution française, on n'utilisera plus jamais le mot de blasphème. Mais ce qui est important de noter, c'est qu'on peut tout à fait trouver des biais en matière juridique pour arriver au même résultat que le blasphème sans le dire. Et là, en l'espèce, c'est une loi, en plus une loi libérale, qui a été prise en 1819 dans le cadre d'un gouvernement qui, à l'époque, était libéral, le gouvernement Decazes. Et il y avait un garde des Sceaux qui s'appelait De Serres, qui a pris une loi sur la liberté de la presse. Et dans le cadre de cette loi sur la liberté de la presse, on a mis un article 8, libellé de la sorte. C'est un article qui prévoit néanmoins un délit d'outrage à la morale publique. Et on a ajouté, c'était pas à la volonté du gouvernement, on a ajouté « et religieuse ». Donc un délit d'outrage à la morale publique et religieuse. Et ce texte va servir de base juridique pour tout le XIXe siècle jusqu'à la loi de 1881 sur la presse, poursuivre des auteurs, poursuivre des caricaturistes, poursuivre des journaux, que l'on considère comme ayant en réalité blasphémé, mais on n'utilisera jamais, plus jamais le terme, parce que depuis, comme je vous disais, l'affaire Calas, le terme blasphème est proscrit en France. Par exemple, tout le monde probablement a entendu parler des procès à la limite du ridicule qui ont été attentés contre Flaubert, Madame Bovary, contre Baudelaire, Les Fleurs du Mal, et puis un certain nombre d'autres auteurs, Proudhon, Genesu, etc. Eh bien, c'est sur le fondement de cet article 8 d'outrage à la morale publique et religieuse. Alors, Flaubert avait des amis, il n'a pas été condamné du tout. Baudelaire a été condamné, mais il n'a pas été condamné il n'a été condamné que pour outrage à la morale publique et non pas à la morale religieuse, parce qu'on a considéré, c'est dans les conclusions du procureur, que c'était un esprit dément, donc on ne pouvait pas lui reprocher la volonté de blasphémer, d'attenter à la morale religieuse. Bref, on a donc un arsenal juridique destiné à préserver les croyants contre la violence des mots. Et cet arsenal juridique a été particulièrement utilisé, c'est assez original de le souligner, non pas au début de la Restauration ou sous la monarchie de Juillet, mais à partir du Second Empire. Et comme par hasard, pourquoi à partir du Second Empire ? Eh bien parce que, à cette époque-là, la religion catholique est en pleine mutation. Il y a un pape qui s'appelle le pape Pie IX, qui est celui qui va adopter le syllabus en 1864. Et le syllabus, c'est une déclaration d'hostilité, pour le dire très simplement, au monde moderne. Donc, en réalité, on voit que on commence à utiliser beaucoup plus ce délit d'outrage à la morale religieuse quand l'Église elle-même évolue ou disons régresse, si on peut dire, par rapport à ce qu'elle pouvait être juste après le Concordat. Alors la loi du 29 juillet 1881, qui est la grande loi sur la presse, eh bien, elle va, c'est un de ses objectifs principaux, elle va mettre fin à ce délit d'outrage à la morale publique et religieuse. Et les débats sont assez intéressants, si il faut les regarder, parce que, justement, ils ont une grande actualité. Et, alors, évidemment, vous avez d'un côté ceux qui sont comme Clémenceau, qui veulent mettre fin à toute forme de délit. Clémenceau considère qu'on doit pouvoir tout dire. Et ce qui est intéressant de noter, c'est ceux qui sont opposés à Clémenceau, en particulier la droite catholique, qui utilise déjà à l'époque, bien avant Austin, et ça c'est très intéressant, parce que Austin s'est inspiré beaucoup plus d'ailleurs des juristes du XVIe siècle, mais au XIXe siècle, au moment des débats, nous avons un homme d'ailleurs de très grande intelligence qui s'appelle Monseigneur Freppel, qui est évêque et député d'Angers, et qui est le chef, en réalité, de la droite catholique de cette époque-là, et qui proteste en utilisant l'idée, et je cite, hein, le fait est l'expression de l'idée, la parole prononcée ou écrite équivaut à une action. Suivant l'adage consacré par la législation anglaise la plus libérale de toutes, scribere est agere, écrire c'est agir. Et par conséquent, Monseigneur Freppel, donc bien avant Austin, utilise l'idée de la performativité du discours pour s'opposer à la loi sur la liberté de la presse. Donc ça doit nous faire réfléchir cette question, parce qu'on voit très bien que depuis très longtemps, et en particulier depuis cette époque-là, il y a un conflit important entre la liberté d'expression et cette idée de la blessure. Et ça aussi, c'est ce que je voudrais le souligner, parce que c'est un des arguments importants de Mgr Freppel, qui considère que la blessure doit être réparée. Et en particulier, dit-il, la blessure à ce que nous avons de plus important, c'est-à-dire Dieu. Et cette idée qu'il faut réparer la blessure s'accompagne en outre d'une idée qu'il faut poursuivre les discours de haine. Là encore, nous sommes au cœur d'une actualité. Et il faut savoir qu'au XIXe siècle, ça ne surprenait pas cette idée de poursuivre les discours de haine, puisqu'il y avait dans la législation, j'en ai trouvé au moins deux exemples, mais il y en avait d'autres, il y avait dans la législation de l'époque un certain nombre de lois qui criminalisaient certains discours de haine. Mais à l'époque, c'était des discours de haine, enfin, c'était destiné à poursuivre les discours de haine des socialistes et des révolutionnaires. Et il y avait notamment une loi du 9 septembre 1835 qui punissait la provocation à la haine entre les différentes classes de la société. Donc, en réalité, on voit très bien l'ambiguïté de l'origine de ce discours, de cette criminalisation du discours de haine. Ça a été d'abord utilisé pour éviter les discours critiques vis-à-vis de la société, vis-à-vis du gouvernement. Et alors, Monseigneur Freppel se trouve heureusement à cette époque-là mis en minorité par cette phrase célèbre de Clémenceau qui lui répond lorsqu'il dit qu'il faut défendre ce qu'il y a de plus important, c'est-à-dire Dieu. Et Clémenceau lui répond « Dieu se défendra bien lui-même, il n'a pas besoin pour cela de la Chambre des députés ». Et c'est ce qui va amener la consécration, enfin, c'est ce qui va amener, évidemment, il y avait la majorité pour, mais je veux dire qu'à cette époque-là, tout le monde se rangera à cette idée que, bien entendu, il faut faire le pari de la liberté d'expression. Ce pari est évidemment hasardeux, ce pari est toujours, peut toujours entraîner quelques dérives, mais il est peut-être plus important que tout. Pourquoi ? Parce que la liberté d'expression, ce n'est pas simplement une liberté parmi d'autres. L'article 11 le dit bien, c'est la liberté la plus précieuse de l'homme parce que c'est celle qui permet la circulation et la confrontation des idées et donc qui permet de progresser ou même de régresser si on veut, mais en tout cas, c'est une liberté absolument fondamentale. Alors, à partir de cette loi de 1881, on va fixer le cadre du débat. J'ai entendu beaucoup de propos sur justement les injures. Donc on considère en France, contrairement aux États-Unis, que évidemment la liberté n'est pas totale. On dit qu'en France, on a la plus grande loi de liberté du monde, mais c'est en même temps une liberté encadrée. Encadrée, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de limites que l'on ne peut pas franchir dans la liberté d'expression. Ces limites, à l'époque, sont au nombre de 2, et on ne peut pas injurier les personnes. Alors, je vous dis que l'injure, c'est l'expression outrageante qui ne comporte l'imputation d'aucun fait. Sale con, enfin bon, bref. Et la diffamation. Et la diffamation. Alors là, la diffamation, c'est au contraire l'allégation d'un fait qui porte atteinte à une personne, comme par exemple, tu as volé, tu as piqué dans la caisse. Voilà. Et donc, ce sont ces deux éléments-là qui, à l'époque, étaient les limites à cette liberté d'expression. Et pourquoi ? Eh bien, parce que le législateur, à l'époque, considère qu'on doit pouvoir tout débattre et tout dire sur les idées. Les idées, ça doit être un combat absolument ouvert. Mais il ne faut pas blesser les personnes. Donc, dans le cadre de la religion, c'est... On doit pouvoir absolument critiquer les religions. Ce sont des idées. Pour ceux qui ne croient pas, par exemple, les religions relèvent de l'idée. Mais on ne doit pas, en revanche, blesser les croyants qui sont attachés à cette religion. Donc la loi distingue bien cette idée, fait bien cette distinction entre les idées et les personnes. Les idées relèvent du débat critique. Et en revanche, les personnes doivent être protégées de toute forme d'injure ou de toute forme de diffamation. Et cet équilibre sera à peu près préservé pendant tout le XXe siècle. Alors, préservé sur le plan religieux. En revanche, il est vrai qu'à partir des années 30, à partir de la crise que tout le monde connaît, il y a eu évidemment de gros dérapages dans les propos dits racistes. Et d'ailleurs, ça va conduire le législateur à prendre en 1939, mais ça ne sera jamais appliqué parce que 1939, c'était un peu tard, une loi marchant d'eau pour réprimer les propos justement de haine. Je finis. Le retour en fait du religieux à partir du début des années 80, a profondément transformé cette configuration que je vous expliquais. Il faut bien savoir que ce n'était pas d'abord les associations musulmanes qui se sont mobilisées pour essayer de réhabiliter. Alors jamais, évidemment, encore, on utilise le mot de blasphème, mais on va utiliser énormément cette idée de blessure, d'offense. Et qui dit en droit blessure, dit donc dommage et réparation du dommage. Et donc en réalité, ce qui s'est passé, je finirai sur cette note un peu technique, mais c'est très important pour le débat, pendant toutes les années 80-90, on va utiliser le biais de l'article 1382 du Code civil qui permet, lorsqu'il y a un dommage et un préjudice, de le faire réparer. On va utiliser ce biais pour contourner la loi de 1881. Et il faudra attendre une grande décision de la Cour de cassation en juillet 2000 pour qu'elle ferme cette possibilité d'agir sur la réparation d'un préjudice en disant tout ce qui touche à la liberté d'expression ne peut être réglé que par la loi de 1881. C'est-à-dire, s'il n'y a pas véritablement de diffamation, s'il n'y a pas véritablement d'injure, alors il n'y a pas de poursuite. Notamment, si vous regardez une publicité qui vous déplaît, eh bien, vous tournez les yeux et vous ne subissez pas véritablement un dommage. Je caricature, bien entendu, pour aller très vite. Et évidemment, cette décision de la Cour de cassation explique tout ce qui va suivre ensuite. C'est-à-dire qu'en réalité, elle anticipe déjà les décisions qui vont être rendues dans l'affaire Houellebecq, dans l'affaire Charlie, et qui va évidemment alimenter un sentiment de frustration parce que dans les années 80 et les années 90, il y a eu en effet un certain nombre de décisions sanctionnant certaines caricatures ou certaines publicités, alors qu'à partir de 2000, il n'y en aura plus dans leur grande majorité. Et certains, et notamment les associations musulmanes qui avaient porté plainte au moment de l'affaire des caricatures de Charlie, considèrent que c'est un peu deux poids, deux mesures, alors qu'en réalité, c'est simplement une temporalité. À partir de 2000, la Cour de cassation a fixé cette jurisprudence, et on espère tous que pour l'instant, elles se maintiennent.